En effet, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu et gloire à Dieu, et d'autant plus pour en ce jour de résurrection qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur. Une fois pour coutume, je vais commencer par vous poser une question pour savoir si vous êtes des bons observateurs. En rentrant ce matin à l'église, est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui est écrit sur le mur gauche, mis à part bien sûr les auteurs? Qu'est-ce que vous avez remarqué, non? Il est vraiment... C'est écrit, il est réellement ressuscité. Mais c'est pareil. Voilà, donc en ce jour de Pâques, Jésus est ressuscité. Si je vous dis ceci, vous me répondrez? C'est un peu timide, on va le refaire. Jésus est ressuscité? Voilà, je crois que la troisième fois, ce sera très bien. Il est ressuscité? C'est parfait. Il est réellement ressuscité. C'est une réalité historique attestée, vérifiée. Et c'est sur cette réalité-là, en effet, que nous pouvons, que notre foi est fondée, que nous pouvons avancer avec confiance et assurance. La vérité, la réalité de la résurrection de Christ n'est autre que la manifestation de la puissance de Dieu du vendredi saint au dimanche de Pâques. Et cette résurrection de Christ est tellement importante, tellement centrale pour notre foi chrétienne que l'apôtre Paul a pris le temps, bien sûr, après les évangélistes, qui accordent quand même une bonne partie à cet événement-là, presque une bonne partie de leur évangile, à vrai dire. La dernière partie de chaque évangile est consacrée au vendredi saint et au dimanche de Pâques. Et l'apôtre Paul consacre par la suite donc tout un chapitre dans l'Épître aux Corinthiens où il aborde la question de la résurrection. Je vous invite à faire quelques lectures, quelques extraits de ce chapitre, mais un chapitre où nous pouvons continuer encore à méditer tout au long de cette semaine. Le premier extrait, donc, c'est au début, les versets 1 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 1 à 9. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous avez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les douze, et ensuite il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont décédés. Ensuite il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme l'avortant, car je suis, moi, le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Poursuivons à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son événement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et nous terminerons à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous ne serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance de péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Jusqu'ici, notre lecture. Il ne faut pas nous fier aux apparences. Encore, les apparences sont toujours trompeuses. De tels dictons peuvent très bien s'appliquer à Jésus sur la croix. Car, humainement parlant, un homme qui finit sur une croix ne peut être qu'une défaite, un échec, voire même une impuissance manifeste. En effet, un observateur contemporain qui regarde Jésus sur la croix ne peut dire que la défaite de cet homme est totale. Bien qu'il prétend venir de Dieu, il finit sur la croix, il est rejeté par son peuple, trahi par l'un de ses compagnons de route, il est abandonné par tous ses disciples au moment crucial de sa vie. Finir sur une croix, pour cet observateur, pourrait être le couronnement de l'échec de ce rabbi, de cet enseignant Jésus. Tout dans cette scène, Jésus à la croix, fait penser à la défaite la plus totale. Et s'il y a une victoire, à vrai dire, humainement parlant, c'est celle de l'orgueil, des préjugés, celle de la jalousie, de la haine, de la lâcheté, celle de la brutalité, de la violence. L'une des difficultés que j'ai rencontrées dans mes premiers contacts avec l'Évangile, et en particulier en lisant, en arrivant à ce passage de la crucifixion de Jésus, c'est justement de comprendre la portée de cet événement. J'ai dû reconsidérer à plusieurs reprises le passage de la croix pour être sûr de n'avoir pas manqué quelque chose, parce que, à l'époque, dans mon esprit, proclamer d'une part que Jésus, le Messie, le Christ, celui qui devait venir, et d'autre part, le voir finir sur une croix est simplement deux réalités, deux choses complètement contradictoires. Mais comme disait Hélène tout à l'heure, il n'y a pas d'erreur à chercher. Il faut juste essayer de comprendre. Chemin faisant, je comprends que la croix, à vrai dire, est loin d'être une défaite, mais bien au contraire. Je comprends qu'elle est vraiment une victoire, et même un triomphe, comme l'apôtre Paul l'écrit dans l'Épître aux Colossiens. Jésus-Christ a dépouillé les principats, les autorités, il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. C'est dans Colossiens 2, au verset 15. À la croix, Jésus-Christ a triomphé, a désarmé le diable et toutes les forces du mal qui lui sont inféodées. Sur la croix, Jésus a annulé l'acte de notre accusation sur lequel le diable se base régulièrement pour nous accuser devant Dieu à cause de notre péché, à cause de notre désobéissance. À la croix, Christ a payé le prix de notre condamnation exigée par la justice de Dieu. Et malgré les apparences, la défaite du diable sur la croix est totale. Car sa base juridique sur laquelle il nous accuse a été détruite par le Christ à la croix. Il n'a plus cette base qui lui permet de nous condamner. Elle est simplement annulée. Voilà pourquoi la croix, c'est une scène de victoire qui s'est, à vrai dire, jouée et loin d'être une scène de défaite. La victoire remportée le vendredi saint est manifestée d'une manière éclatante le dimanche de Pâques, le dimanche de résurrection. Et la relation entre la crucifixion et la résurrection est tellement liée et si étroite qu'on pourrait même parler d'un seul événement à deux facettes. Une, bien sûr, sombre, mais l'autre, lumineuse. C'est un seul événement. La résurrection donne, vient exposer publiquement la victoire de la croix. La résurrection ne dévoile la victoire que Christ a acquise par son propre sang, le Vendredi Saint à la croix. La mort du Vendredi Saint cède la place à la résurrection de dimanche de Pâques. La mort n'a pas eu le dernier mot, d'ailleurs, ni d'ailleurs même les souffrances, car Dieu a brisé les liens de la mort et il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, car il était impossible que la mort le retienne captif, comme l'explique si bien l'apôtre Pierre lors de son discours à la Pentecôte. Acte 2. Le vendredi de la crucifixion est suivi de dimanche de la résurrection. Dieu a déployé sa puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Il est vivant et la mort n'a pas pu le retenir. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu la mort définitivement, le dernier ennemi, car nous avons, écrit l'apôtre Paul au chapitre 6 de l'épître aux Romains, que Christ est ressuscité des morts et ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour toujours. Il vit pour Dieu. La résurrection de Jésus manifeste le caractère décisif de la victoire remportée sur les forces du mal, sur les puissances du mal, sur la force de la mort et les puissances du mal. La résurrection a fait de Jésus le premier-né d'entre les morts. La mort a perdu sur lui tout empire, toute autorité. Et celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, s'est vu tout simplement réduire à l'impuissance. Cette victoire à la croix nous donne à nous aussi la victoire de Dieu, la victoire de Dieu dans notre vie, comme le proclame l'apôtre Paul dans bien des reprises, à bien des reprises, et notamment dans le texte que nous avons lu. Grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ou encore, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Encore nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire qui nous ouvre le chemin de la victoire est annoncée au lendemain de la désobéissance de l'être humain, d'Adam, de la transgression du commandement de Dieu qui a conduit nos premiers parents humains, nos premiers représentants humains à la séparation d'avec Dieu, ce que la Bible appelle la mort spirituelle. À cause de cet acte de rébellion, plus de communion avec Dieu. Dès ce moment-là, Dieu annonce la venue future de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire du diable. Et cette descendance de la femme n'est autre que le Messie Jésus venu dans notre monde qui a écrasé la tête du serpent ancien, appelé aussi le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Jésus l'a fait sur la croix de Golgotha en ce vendredi saint. Dès le jardin d'Éden, Dieu annonce qu'il mettra fin à la domination du mal et établira son règne de paix, de justice pour toujours. Puisque la mort est venue d'un seul homme, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même, aussi tous revivront en Christ, écrit l'apôtre Paul dans le chapitre que nous avons lu. Les promesses faites par les prophètes de l'Ancien Testament à ce sujet se trouvent pleinement réalisées, accomplies en Jésus-Christ. Et nous pouvons notamment citer cette belle parole du prophète Isaïe où le Seigneur dit, où le prophète dit, le Seigneur déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture qui recouvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais et tous les visages, de tous les visages. Le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes. Et sur la terre, toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. Le Seigneur le déclare ainsi à parler le Seigneur. Isaïe 25. Le prophète annonce que le salut à venir est auprès du Seigneur et que tous ceux qui viendront à lui et de toutes les nations seront sauvés et auront part à la vie éternelle, à la consolation définitive et à la consolation définitive et à ce soulagement définitif de toutes les douleurs et essuiera toutes leurs larmes. Cette victoire définitive du Messie est annoncée, qui a été annoncée, a été bien par bien des prophètes, a été accomplie en la personne de Jésus-Christ. En effet, en Christ, le Seigneur est venu parmi nous pour remporter cette victoire promise. Se doutant de cette victoire imminente, Satan se déchaîne, jetant toutes ses dernières forces dans le combat. D'abord, il se déchaîne contre les enfants de Bethléem en les mettant à mort dans l'espoir de mettre à mort aussi la vie terrestre, de mettre fin aussi à la vie terrestre de Jésus. Mais l'Évangile nous dit que ça a été un projet qui a été sans succès. Dieu a protégé Jésus alors qu'il était encore enfant. Le diable revient encore à la charge lorsque Jésus a commencé son ministère à 3 reprises. Le diable vient le tenter et Jésus, dans toutes ses tentations, est sorti vainqueur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais sans comme nous, mais sans commettre de péché. Et Jésus, en ce sens, a été obéissant jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Comme le diable a essuyé que des échecs dans ses confrontations directes avec le Seigneur, il décide alors de passer par ses disciples. D'abord, il met une pensée dans le cœur de ce disciple qui a fait une très belle confession de foi. Tu es le Seigneur, le Christ. Dans le cœur de Pierre, il a mis une pensée par laquelle il veut détourner Jésus de son projet d'aller jusqu'à la croix. Mais là aussi, sans succès. Ensuite, le diable se saisit de Judas, l'un des disciples de Jésus, pour trahir Jésus. Mais rien n'arrête Jésus. Il est résolument décidé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour proclamer publiquement la victoire et permettre à un peuple nombreux de toutes les races, de toutes les nations, de passer des puissances des ténèbres à son admirable lumière, à son royaume de lumière. À la croix, Jésus a manifesté d'une manière éclatante la victoire de Dieu sur le mal, sur la mort. À la croix, Jésus a apporté un coup fatal, un coup mortel à la mort. C'est la mort définitive de la mort qui est scellée à la croix. L'apôtre Paul écrit au verset 55 et 56 du texte que nous avons lu, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance de péché, c'est la loi. Or, à la croix, Christ a satisfait à la justice de la loi divine. Il nous a apporté le pardon de Dieu, ce pardon, Christ nous l'offre gratuitement. Il le donne à tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Il a donné sa vie en sacrifice pour le pardon d'une multitude dont font partie tous ceux qui peuvent entendre l'appel de Dieu et répondre favorablement encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, des nouvelles personnes peuvent faire partie de cette multitude et être au bénéfice de ce pardon, au bénéfice de cette victoire que Dieu nous a acquise par son propre sang. En ce dimanche de Pâques, les premiers disciples de Jésus découvrent que leur maître est ressuscité. Et en ce dimanche, une nouvelle matinale, certes qui n'a pas été diffusée à l'époque par le JDD de l'époque, mais par l'ange du Seigneur lui-même. Il n'est pas ici, comme nous l'avons lu. Il est ressuscité, dit l'ange à ces deux maris qui sont venus voir la tombe de Jésus au troisième matin après la crucifixion. Et la nouvelle s'est répandue d'une manière rapide, en tout cas chez les disciples, qu'elle a changé complètement l'atmosphère. Très rapidement, le Christ ressuscité vient à la rencontre de ses disciples. Il est apparu à plusieurs d'entre eux. Il a été vu par Cephas, par les douze. Il a été vu par plus de 500 frères. Ensuite, il a été vu par Jacques et puis par tous les apôtres. À partir de là, Christ ressuscité est proclamé. Il est annoncé par tous les apôtres et tous ceux qui croient en lui reçoivent le pardon et la victoire du ressuscité. La manifestation totale, pleine et totale de cette victoire aura lieu au retour de notre Seigneur pour instaurer la nouvelle terre et les nouveaux cieux. En ce jour-là, la promesse faite par la bouche de David se réalisera totalement lorsque Dieu a dit au Seigneur « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » En ce jour-là, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En ce jour-là, le diable sera jeté dans les temps de feu, de soufre, où le rejoindront la mort, le séjour des morts. Et en ce jour-là, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En ce jour-là, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, le Fils de Dieu remettra le royaume à son Père, afin que Dieu soit tout en tous. En ce jour-là, le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui a été autrefois a définitivement disparu. La victoire de notre Seigneur, rendue publique, manifeste à la résurrection, est une victoire totale. Grâce à elle, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et des demeures éternelles, dès à présent, nous sommes préparés dans la maison du Père. La résurrection de Christ implique aussi des victoires dans notre vie au quotidien, dans notre vie chrétienne. Et la première implication de la victoire de Christ, c'est bien sûr notre pardon, notre justification. Christ est ressuscité pour notre justification, écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 4. À la croix, Christ a annulé l'acte d'accusation qui est formulé contre nous. Grâce à la croix, nous sommes pardonnés, délivrés de la tyrannie, de la condamnation, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, qui accusera, poursuit l'apôtre Paul dans ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Grâce à la croix, à la résurrection de Christ, Dieu nous regarde favorablement en Jésus-Christ. Il nous pardonne, il nous accueille à chaque fois que nous nous tournons vers lui en Jésus-Christ. En effet, nous pouvons nous approcher de Dieu librement, ce Dieu juste et saint, sans avoir la peur d'être brûlé à cause de notre péché, d'être écrasé à cause de notre nature pécheresse, car Dieu ne reçoit en la personne de son Fils Jésus-Christ. Il nous déclare juste par Jésus-Christ, par cette justice que Jésus nous a acquise. Par conséquent, nous pouvons nous approcher de lui librement, joyeusement, dans la reconnaissance et dans la crainte. La deuxième implication de la victoire du Christ sur notre vie, c'est notre sanctification. Une fois pardonnés, nous devons laisser la victoire acquise à la croix nous conduire de victoire en victoire face à nos propres faiblesses humaines et aussi face aux tentations du diable. Le nouveau statut d'enfant de Dieu pardonné, justifié, que nous avons reçu et que nous avons reçu nous engage à vivre aux nouveautés de vie, à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous et à fuir les œuvres de la chair, telles que l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, les disputes, les passions jalouses, les fureurs, les ambitions personnelles, les divisions, les dissensions, l'envie, les buveries, les orgies, etc. Nous devons laisser la victoire de la résurrection nous conduire à laisser l'Esprit du Seigneur produire en nous son fruit à lui, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, et tout ce qui honore et glorifie notre Seigneur. Paul nous encourage à nous débarrasser des pratiques qui caractérisent la vie sans Christ, des pratiques nouvelles, conformes à notre nouveau statut d'enfant de Dieu, d'enfant, d'homme et de femme pardonnés et justifiés par Dieu. Parmi ces pratiques, nous avons par exemple à progresser dans la vérité en renonçant au mensonge, à remplacer des paroles blessantes par des paroles encourageantes, constructives, à rejeter l'amertume, l'animosité, la calomnie et au contraire à manifester, à développer, favoriser en nous, parmi nous, la bonté, la bienveillance, la grâce. Et aussi, nous sommes invités, jour après jour, à vivre, à laisser la victoire de la résurrection se traduire concrètement dans une vie de consécration, de sanctification. Cette victoire de Christ nous met en mouvement sur cette voie de sanctification sans laquelle, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, personne ne verra le Seigneur. Enfin, la troisième et la dernière chose que j'aimerais souligner que peut impliquer la victoire du ressuscité dans notre vie, c'est la glorification à venir. Cette glorification commencera par notre résurrection au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui indique l'apôtre Paul dans les derniers versets du passage que nous avons lu. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, qui dit « La mort a été engloutie dans la victoire ». L'assurance de notre résurrection est fondée sur celle de Jésus lui-même. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Ceux qui appartiennent au Christ ressusciteront lors de son avènement. Sur la base de la victoire du Christ, la résurrection, sur la base de la victoire du Christ, de la résurrection du Christ, nous serons nous aussi, à notre tour, ressuscités pour vivre éternellement avec le Seigneur et pour toujours. C'est lui la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Et quiconque croit en lui ne mourra jamais. Telle est la promesse, la déclaration que Jésus a faite à ses disciples à l'occasion de la résurrection de Lazare. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue en disant, crois-tu cela? Croyons-nous qu'elle est la résurrection et la vie? Crois-tu cela? Chers frères et sœurs, c'est une œuvre fondatrice d'une nouvelle réalité qui s'est accomplie ce vendredi saint au dimanche de Pâques. La victoire de Dieu a fait son irruption dans l'histoire humaine lors de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. La célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus ne doit pas se limiter seulement au dimanche de Pâques, mais elle doit se faire régulièrement lors de nos rencontres. Et c'est cette œuvre, c'est à cette œuvre fondatrice à laquelle nous renvoyons à chaque fois que nous célébrons la scène ensemble. Le baptême aussi fait partie de cette pratique qui nous renvoie à la mort et la résurrection du Seigneur d'une certaine manière. Ces deux, les seules pratiques que le Seigneur nous a laissées, nous rappellent ce qui doit être au centre de la vie de l'Église, de notre Église, à savoir, Christ est mort pour nous, péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Mais la résurrection de Christ doit aussi être quelque chose de vrai, de tangible, dans notre vie personnelle à chacun, et pas simplement dans notre vie communautaire. Nous devons laisser cette victoire de Christ nous entraîner sur le chemin de sanctification et de consécration. Que la victoire de notre Seigneur, que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle soit une réalité tangible dans notre vie communautaire, mais aussi dans notre vie à chacun. Amen.